Deux questions. C'est ce qui s'est dit entre l'ambulancie et le psychologue et le cerveau. L'un sur la propriété et l'autre sur l'identité. Ne pensez-vous pas, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit, monsieur Nancy, que l'on se polarise sur la propriété propre de l'être. La propriété a deux sens, le chimiste quotidien. La propriété, c'est la propriété de l'être, mais aussi c'est la propriété à. On peut être donc propre de, mais aussi on est propre à. C'est-à-dire la fonctionnalité, et pas seulement l'appartenance. Je suis d'accord avec vous, on insiste trop sur les organes, sur la propriété, sur le propre de, et pas assez sur le propre à. Quant à l'identité, je pense que, oui bien sûr, je pense que comme depuis John Locke, on voit que tout se passe dans le cerveau passe vraiment disque dur, M. Liberman.
C'était du mot.
C'était du mot. Je pense qu'il y a un terme qu'on n'a pas encore évoqué, et qui est tout simplement celui de la mémoire. Je pense, je suis loin, moi-même, personnellement convaincu, que notre identité, c'est notre mémoire. Ce n'est pas la mémoire réelle. C'est une mémoire qui est changeante, qui est en permanence réactualisée avec tout le vécu quotidien, et qui on peut, grosso modo, la détailler entre la mémoire autobiographique, mais également la mémoire sémantique, voire la procédurale.
Je voulais ajouter quelque chose, parce que vous me faites penser à ceci, qu'on parle toujours du don d'organes. Et puis j'apprends déjà le mot de générosité a été prononcé. Je comprends très bien, je comprends très bien. Et en même temps, dans l'idée même du don et de la générosité, il y a d'emblée présent l'idée justement d'une propriété que je n'oppose absolument pas à l'appropriation dont on parle, pas du tout. C'est à l'idée que je suis propriétaire, alors je vais donner. Si on peut, j'imagine, je vais l'écrire dans un texte qu'on m'a demandé comme postface, un très gros ouvrage sur les grèves. Vous connaissez sûrement tout ce qui a été publié à Strasbourg. Moi, j'ai proposé, et je sais que cette proposition ne peut pas prendre, mais peu importe, qu'on cesse de parler de don et qu'on parle de transmission de la vie. Quand vous avez dit, madame, je trouve de manière très juste, que c'est quelque chose qui concerne l'espèce et non pas un individu par rapport à un autre individu, on ne peut qu'approuver ça. L'idéal, ce serait d'arriver à faire passer tout le monde cette perception, comment dire, à la fois ce sentiment et cette compréhension du fait qu'il s'agit de la vie qui passe entre, non seulement d'ailleurs entre les hommes, mais qui peut éventuellement passer entre les vivants. Enfin, je ne sais pas où on en est maintenant avec les xénogreffes, oui. Quand j'étais jeune greffé, on parlait beaucoup de l'espoir d'arriver à greffer des cœurs de porcs aux hommes. Et tout le monde, beaucoup de gens m'ont dit, alors mon Dieu, tu l'as échappé bête, t'as pas un cœur de cochon. Et je sais que le film, bon, ça a été abandonné. Et d'ailleurs, quand on arrivera, parce que peut-être on arrivera au cœur électrique, il y a un peu de point de vue assez encourageant pour un cœur implantable et qu'il n'y a pas besoin de recharger toutes les 5 minutes. Qu'est-ce qu'on dira alors de l'identité cardiaque qui aura un cœur. Mais, voilà, Oui, voilà, comme une sauvée des anges. Mais, je jette ça une fois de plus, surtout à vous, madame. Et quoi, si on essayait de faire gagner l'idée de transmission de la vie à la place de celle de don?
Je voudrais juste ajouter quelque chose concernant la pénurie de dons d'organes. On est quand même, il faut l'accepter, nous sommes dans un paradoxe complet. D'un côté, on cherche les organes pour transplanter les malades qui sont mal ou qui vont mourir. Bien. C'est très défendable, on fait beaucoup d'efforts pour augmenter le nombre de donneurs volontaires, etc. Bien. Et d'un autre côté, et c'est tout aussi légitime, on essaye de préserver la vie. Donc, on se bat, et comment on va, pour diminuer le nombre d'accidents de la route, et on se bat pour essayer de diminuer les morts d'accidents vasculaires cérébraux. toujours les deux. Je ne vous proposerai pas de choisir, parce que c'est impossible. Mais vous voyez bien que d'un côté, on essaye de diminuer les morts dites évitables, qui sont, entre parenthèses, souvent des sources de dons d'organes qui étaient importantes, pour les actions de la route en particulier, et d'un autre, on essaye de trouver des organes. Alors, parce qu'on a beaucoup
d'efforts, mais aujourd'hui, il y a aussi des indications. D'accord. Et simplement, moi, je veux dire deux choses. Je constate la propriété de la propriété A. Je ne suis pas philosophe, vous avez compris, je suis basique, je suis chirurgien. Mais la question, c'est quand je dis s'approprier, ça ne veut pas dire prendre la propriété de. Je m'approprie, à chaque fois que j'étais étudiant, j'étais dans le temps, je me l'apporte de deux, je vais bien entrer, la fête, ce que j'ai dit. Le deuxième point, c'était plus bon, on dit ce que nous. Je ne perds pas le temps de témoigner une bêtise de temps en temps, j'en ai pas trop dit aujourd'hui, mais c'était l'humour. Par contre, ce que vous avez dit sur la mémoire, la mémoire, si vous, je pense que sur une certitude, elle se situe pas dans le cerveau, elle se situe dans les gènes. Et elle traverse le temps de la vie, et la vie traverse le temps, parce que vous avez le résultat d'un mélange de deux jeux des spermatozoïdes. Au lieu de spermatozoïdes, et votre organe, depuis des millénaires, c'est comme ça.
Pardonnez-moi. Vous avez vraiment beaucoup de questions.
Oui, alors, bonjour.
Merci beaucoup. Voilà. Alors, je voudrais revenir un peu sur les questions de greffe concernant les cellules de souche. Actuellement, on sait que l'identité, souvent, est résumée à l'ADN, c'est-à-dire une trace ADN qui permet d'identifier un individu. Est-ce qu'à partir du moment où on ajoute des cellules souches venant d'un autre individu, n'y a-t-il pas le risque de modifier aussi l'ADN? Est-ce qu'on pourrait, dans un plus ou moins proche avenir, imaginer que quelqu'un qui souhaite brouiller les pistes puisse recourir à des greffes de cellules souches pour modifier son ADN?
Qui veut répondre?
Non, je ne suis pas docteur. Je n'ai aucune compétence sur ce sujet-là, sauf pour vous dire, madame, que les cellules souches dont on parle là sont les cellules souches hématopoïétiques. C'est-à-dire qu'elles sont déjà spécialisées. Ce sont des cellules qui sont utiles pour fabriquer les cellules sanguines et c'est tout. Elles ne sont pas capables, sauf si, alors ça c'est autre chose, on les reprogrammait dans un autre type cellulaire, de faire d'autres cellules. Donc aujourd'hui, dans les services d'onco-hématologie, quand on fait une greffe de cellules souches hématopoïétiques pour soigner leucémie, en effet, on va mettre dans ce corps soigné des cellules sanguines qui vont circuler et qui seront différentes des cellules sanguines de ce patient à l'origine. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a ces changements de groupe sanguin ou chose, qui posent des problèmes d'identité. Alors, la question que vous posiez de la recherche, on parle beaucoup de reprogrammer des cellules souches, c'est-à-dire leur capacité à revenir en arrière jusqu'à un état embryonnaire et ensuite à repartir dans un autre sens. Mais en gros, on a toujours une cellule différenciée dans un certain type, donc les cellules du foie, les cellules du sang, etc. Donc, peut-être qu'un jour, des cerveaux en fous, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, non.
Et on fait une science entière, madame, alors, sur l'identification corporelle à partir du corps demain.
Je voudrais juste ajouter que certains travaux et applications pratiques ont été faites, mais ce ne sont pas des greffes. Ce sont l'utilisation de cellules du patient qui ont la capacité de se transformer et de s'adapter à une fonction différente. Donc ça, ce n'est pas des cellules venant d'un autre individu, c'est des cellules qui appartiennent à l'individu lui-même. Donc là, il n'y a pas de question de modification d'ADN ou quoi que ce soit.
Alors, c'est juste un petit champion avec lequel nous avons correspondu par Internet. Elle a envie d'apporter un témoignage important, très court, mais très important.
Merci. Je voulais revenir sur quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été beaucoup développé, je le regrette un peu, puisque l'hospitalité rénale a donné vivant. C'est mon père qui m'a donné son rein il y a 5 ans. Donc j'ai aucun problème d'identité par rapport à l'organe puisque c'est mon père. Je le vois régulièrement. Comme la personne qui est greffée cardiaque, je lui envoie régulièrement une carte postale, enfin, tous les ans, pour lui souhaiter un bon anniversaire, le 1er avril. La greffe à donneur vivant permet de nombreuses choses positives, puisque j'ai jamais subi l'attente de la greffe. J'ai un greffon d'une qualité absolument splendide, et j'espère pouvoir le garder de façon prolongée, et au-delà de la moyenne d'une greffe normale. Donc je pense que c'est une technique et un processus qui a vraiment d'avenir et qui doit être développé parce que ça représente vraiment beaucoup de bénéfices pour tout le monde et très très peu d'inconvénients pour mon père. Qui vit très bien. Merci.
La suivante, monsieur.
Simplement, il faut rappeler ici que la greffe à donneur vivant n'est valable que pour un certain nombre d'organes.
Madame Dubon, c'est pourquoi je vais parler de ça, puisque j'ai participé aux études organisées par des médecins sur la grève de foie vivant, et donc participé à l'élaboration des recommandations qui sortaient de ces journées, et les recommandations étaient d'arrêter, ou du moins d'être extrêmement prudent avec la greffe du foie vivant, dont il est apparu que, trop souvent, elle entraîne la mort du donneur. Je rebondis sur le commentaire de cette dame. Je me posais la question si vous voulez greffer plusieurs fois dans une vie. Et je rebondis encore une fois sur mon frère, un jour, il était dans une période médecin. Infirmier me disait, c'est scandaleux de voir des gens qui se poussent de foie en vivant, on leur fait une grève de foie et ça recommence. Alors je ne sais pas qui est le mot. Et puis non, on pourrait avoir ce sujet.
Vous savez, on se trouve en médecin et nous ne sommes pas juges. Ça c'est la première chose. La deuxième, concernant les greffes multiples, successives multiples, oui, ça existe évidemment, en particulier pour le rein, puisque lorsque vous avez soit un rejet initial ou un rejet chronique, vous pouvez retransplanter. Alors, les choses deviennent de plus en plus difficiles, parce que le malade sécrète, génère des anticorps contre le premier greffon, donc il va avoir une capacité à se défendre plus grande la deuxième fois, la troisième fois encore plus. Donc ça complique beaucoup les choses, mais on peut l'envisager. Et puis vous savez, concernant le foie et l'alcool, il y a des maladies dont on peut estimer qu'on a, qu'on les mérite un peu. Entre guillemets, je veux dire, hein, le type qui fume pendant 40 ans, qui a pu s'arrêter et qui a un cancer du poumon, il a eu part de responsabilité. Mais nous ne sommes jamais là pour émettre le moindre jugement là-dessus. Jamais.
Un point savoir la recherche sur les îlots de l'occurrence et savoir si tu avais fait une recherche particulière comme la puisque moi je suis un grand client il y a plus ans. Et donc, je me pose la question donc, sur ce type.
Donc, pour savoir si la greffe de pancréas pourrait être remplacée par le greffe d'îlot, mais je ne
sais pas, c'est déjà.
Votre pancréas fonctionne encore 22 ans après. Ouais. Ouais, chapeau, parce que ça veut dire que votre a des records. Oui, non, mais je sais, c'est un peu notre spécialité à Lyon dans ce domaine. À l'évidence, la greffe d'îlot de l'enguerrance, c'est la partie qui s'est. En gros, vous greffez un pancréas, 99% ne sert à rien. Et 99% sert à sécréter un sucre digestif extrêmement toxique qui entraîne des complications. Donc l'idée de sortir les 1% qui sont utiles a beaucoup de signification et je crois que ça avance, mais à un rythme lent, parce qu'il faut revasculariser, il faut que les vaisseaux retournent autour de ces îlots d'enguerrance et on n'y est pas encore, donc la technique qu'on avait mis au point au départ, c'était des îlots vascularisé pour transporter. Et oublions ça. Et un deuxième point, c'est la fabrication d'îlots de l'enguerrance à partir de ces souches,
patient, madame, et qui est en train d'avancer. J'ai reçu hier une communication qui vient de Mansour en Égypte, le type est un type de top niveau, qui montre qu'on peut fabriquer des kilos d'endurance chez le rat, maintenant, et je pense que là, il y a à venir certainement.
Oui, je suppose que quand il est prêt, il y a une limite dans les deux sens. Quel est l'âge pour les donneurs vivants à partir du quel on peut donner, et quel est l'âge à partir de lequel les personnes âgées ne peuvent pas. Alors, cette année, on a à plusieurs reprises trouvé des donneurs de plus de 90 ans. Il y a, donc ici, nous sommes tous concernés. Il y a eu une étude qui a été faite dans le service du conservatoire qui a montré que, de manière théorique, les cellules du foie étaient programmées pour vivre, entre guillemets, 130 ans. Donc c'est assez théorique. Donc si vous avez une hygiène de vie convenable, vous n'avez pas trop bu, votre foie, il est bon jusqu'à très tard. Et éventuellement, s'il n'y a pas de maladie, les reins aussi. Bien entendu, ça ne vaut pas pour le cœur ou les poumons pour lesquels il y a effectivement un âge limite. Alors mon voisin me disait, comme tous les greffeurs cardiaques, à quel point c'est compliqué de greffer des cœurs de personnes plus âgées. Mais c'est vrai que si, tant pour le poumon que pour le cœur, on fait plus de mal maintenant, c'est parce que les chirurgiens et les équipes de cardiologie ont fait de gros efforts et se sont montrés audacieux. Ils ont accepté des cœurs de donneurs qui avaient d'abord 45, puis 48, puis 50, puis maintenant même au-delà et presque jusqu'à 60 ans. Donc il n'y a pas de limite pour être donneur d'organes, pour répondre de manière claire à votre question, puisqu'on prélève les organes jusqu'à 90 ans. Et je vous rappelle qu'il y a aussi le don de tissus. On peut prélever les cornées. C'est utilisé dans le soin d'une maladie qui rend les gens aveugles, le kératocone, et ces cornées peuvent être prélevées jusqu'à 100 ans. On a eu un problème avec l'agence de la biomédecine dans notre base informatique, parce qu'il y avait un revers de 101 ans pour être prévu. Donc, il n'y a pas de limite pour cette transmission de vie. Et pour recevoir, c'est pareil, il y a une évolution, toute notre population vieillit, et les médecins ont appris à prendre en charge des patients plus âgés. Donc maintenant, en greffe rénale, il est fréquent de greffer des personnes qui ont plus de 75 ans, aux alentours de 80 ans. La moyenne d'âge des personnes en dialyse aujourd'hui est de 70 ans. Donc effectivement, les malades sont plus âgés, et les donneurs, bien sûr, aussi sont plus âgés.
La limite d'âge pour les dons aussi. La limite d'âge pour les dons aussi.
Là, on change de sujet, je ne suis pas sûre que son cerveau soit d'accord. Hein.
35 ans. 35 ans. Ouais. Monsieur, allez. Bonjour. Alors, en fait, si tu l'as compris, les êtres humains, en fait, décèdent de mort naturelle parce que les cellules et les organes vieillissent. Et justement, ma question est la suivante. À partir du moment, dans notre époque, où on est capable de créer des cellules ou des organes comme des cœurs, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer le don d'organes, enfin la greffe d'organes, comme un moyen d'échapper à la mort naturelle?
Oui, c'est un moyen d'échapper à la mort naturelle, mais comme le disait le professeur Fraisse il y a quelques minutes, nous médecins on est là pour soigner les patients et leur éviter ou repousser au plus tard possible la mort naturelle.
Ma question va un peu dans le même sens. Pour faire le lien avec le débat d'hier soir entre Yves Alizan et M. Mattei, pour l'instant, on parle, et c'est normal, de greffe d'organes, enfin de greffe réparatrice. Mais en rapport avec le thème de l'homme augmenté, est-ce qu'il y a des travaux éventuels, des gens, j'allais dire, des scientifiques normaux, et puis d'autres peut-être un peu comme ça, qui imagineraient des greffes permettant l'augmentation de l'homme, dans le sens où ça a été dit hier soir.
Augmenter l'homme immigré, c'est votre boulot de médecin. Je réponds à côté carrément, mais actuellement il y a quand même des travaux très significatifs sur la fabrication d'organes. La réunion de médecine très récemment, on a eu un débat où on a parlé du rein, si on peut occuper ce du cœur, du poumon et du foie. Et ça, on arrive très très bien chez le rat, chez le porc, qui est bientôt, et déjà chez l'homme, sans qu'il y ait une transposition. prendre un cœur, décellulariser, alors remplacer, alors recelluliser les cellules propres au futur receveur et à éviter le traitement des immunosuppresseurs. Donc ça, c'est une des avancées, mais c'est pas
augmentation.
Retrouver notre capacité.
On me demande de poser la question à Mme Prada Bordenard. Que faut-il faire pour être donneur?
Pour être donneur, il ne faut rien faire, surtout. Il faut en parler à ses proches. Parce que la loi française dit, c'est une loi, je vais me faire un peu, j'ai 2 minutes. Alors, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de jeunes soldats qui ont été blessés aux yeux par les bombardements, par les effets de blast. Et il y avait à l'époque un député qui était médecin, qui s'appelait Laffey, et qui a fait passer la première loi combative dans notre pays, la loi Laffey, en disant, écoutez, maintenant, on peut rendre la vue à quelqu'un, et donc à ces jeunes soldats, en faisant une grève de cornée. Et on va créer un nouveau, quelque chose de complètement bouleversant. On connaissait le don du sang des gens. Et c'est là qu'on va parler de don pour la première fois, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de don. Et on va pouvoir donner, à l'époque on disait, donner ses yeux, parce qu'on donnait les clones. Et on prélevait cette petite membrane qui est la cornée, et on la greffait sur ces jeunes soldats. Et là, c'était un don par testament. Il fallait faire un testament. Je donne mes yeux à la Banque française des yeux, qui était une association. Et c'est le début. Et en 76, le sénateur Caillavet a complètement changé la logique. Il a dit, en France, notre devise, c'est liberté, fraternité, égalité. On va faire la fraternité après la mort. Vous connaissez tous l'incrimination pénale de non-assistance à personne en danger. En principe, en France, quand vous avez un gars qui tombe dans le lac, vous devez faire ce que vous pouvez pour le sauver. Sinon, c'est une non-assistance à personne en danger. Et le sénateur Caillavet, il a dit, notre système de soins n'est pas bon. Il faut dire, tous les Français, a priori, veulent sauver la vie d'un autre après leur mort. Donc on a inversé la loi et on a mis en place un système légal de consentement présumé. Mais pour préserver la volonté de chacun, on a prévu qu'on peut refuser. Donc la loi française, c'est nous sommes tous donneurs, mais nous avons la liberté de refuser. Donc il n'y a rien à faire, il n'y a pas de formulaire à remplir, il n'y a pas de choses comme ça. Simplement, quand vous avez la liberté de refuser, la loi prévoit, on va demander à vos proches, est-ce que vous savez s'il était opposé au don? Et là, il vaut mieux que vous leur en ayez parlé, parce que parfois, dans l'émotion, les proches ont peur de la chirurgie, du prélèvement, ils ont peur de mal faire, et ils disent, tonton, en fait, ils font. Et c'est dommage, parce que après, quand on reprend contact avec ses familles, notamment par ses études, on voit que ses familles regrettent. Et ils disent, à chaud, on a cru bien faire, mais. Réflexion faite, en fait, c'était un gars vachement généreux, il était au club de foot, il faisait du soutien scolaire et tout, et en fait, il aurait aimé de lui. Voilà, donc, et c'est pour ça qu'il faut en parler autour de soi, parce que dans ce moment d'émotion, eh bien, pour que les parents aient bien le réflexe de se dire, mais oui, en fait, elle était, voilà, elle était scout, elle était scout, elle était cela. Oui, oui, il faut y aller.
Alors, nous avons juste quelques minutes encore, et nous avons parmi nous le directeur de l'hôpital de Strasbourg, de l'Institut universitaire de Strasbourg, qui est notre grand témoin, il a écouté tout ce qui s'est dit. Et une faible résumé, là, si vous voulez prendre des notes, celui qui devait en prendre. En tout cas, je ne sais pas si vous avez appris des choses, mais parmi les choses que vous avez entendues, il y a des choses qui vous surprennent, d'autres un petit peu moins. Patrick Guillaume.
D'abord, je ne sais pas si je vais faire une synthèse au sens habituel du terme, mais ce qui m'intéresse, c'est de livrer quelques impressions. La première, c'est juste un rappel, un peu basique, qui est de dire, il y a 60 ans, et on ne savait rien de tout ce qu'on est en train de se raconter. Alors, on peut dire 60 ans, c'est vieux. 60 ans, on regarde le temps qui passe, c'est très peu. Mais c'est l'occasion pour moi de saluer la force et la compétence de beaucoup de monde. Je salue quelques-uns qui sont autour de la table et que je connais plus particulièrement, et qui œuvrent dans ce sens. Alors, je ne suis évidemment pas un professionnel de la greffe, je suis un directeur d'hôpital, ce qui n'a rien à voir, sauf que l'hôpital et les CHU notamment sont les lieux où les greffes se passent et que je connais avec certains autres le détail un petit peu de la chaîne qui entraîne la greffe. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est important. L'autre remarque que j'avais envie de faire, c'est que dans ce débat important, un peu passionné quand on arrive à des notions fortes, notamment d'identité, d'appartenance, etc., il y a un débat à trouver entre interroger la société et interroger l'intimité de l'être. Interroger la société, c'est pourquoi, par exemple, en France, je passe sous le contrôle éclairé de Mme Bordenave, on a un pourcentage de donneurs qui est moins important qu'ailleurs. Vous évoquiez tout à l'heure aussi les donneurs vivants, etc. Enfin, c'est dire, et ça a été dit, il y a un rapport entre l'identité et la culture. On ne fait pas tout pareil partout dans le monde. Donc il n'y a pas de vérité universelle sur ce problème. Je ne veux pas trop détailler. Mais ça, ça me paraissait un point important. Un autre point qui est plutôt une remarque sur le donneur et le receveur. J'ai pris quelques notes pour dire que le donneur ne reçoit rien. Puisqu'il est mort, il ne peut recueillir le fruit de son propre don. Le receveur reçoit tout, c'est-à-dire peut-être une part de la vie, et peut-être aussi quelque chose de plus affectif qui s'appelle la reconnaissance. Donc, simplement une invitation à cette réflexion. La société doit s'engager. C'est une invitation que vous apportez, Mme Bordenave, et je pense qu'elle a bien raison, parce qu'il n'y a effectivement pas de miracle. Que veut la société sur ce problème pour amener un mieux-être ou un plus-vivre à chacun? L'homme, l'individu, doit s'interroger sur le sens du don, sur le sens de la réception, et comment il le situe par rapport à ses engagements philosophiques, spirituels et personnels. Je voudrais terminer par ce que j'ai lu dans... C'est une remarque d'un greffé, ça m'a paru en tout cas correspondre à ce que je pense. Tout le monde ne pensera peut-être pas la même chose, mais j'ai envie de vous le livrer. Être greffé, c'est effacer les limites entre soi et l'autre. C'est reconstruire sa propre identité, pas de commentaires sur ce sujet, on ne sera pas là en tout cas. C'est reconstruire sa propre identité par incorporation de l'étranger. Les mots sont assez forts. Mieux que la tolérance, c'est faire de l'autre un nouveau soi. C'est redonner un sens constructif à la mort, faire de la mort une source de vie.
Patrick Guillaume, merci infiniment à vous.